bienvenue dans votre émission internationale, très heureuse de vous retrouver. Nous sommes en direct avec RFI et le journal Le Monde pour accueillir notre invité Éric Chaisson. Il est chirurgien vasculaire, cofondateur de Médecins du Monde et président de la chaîne de l'espoir. Avec ce grand voyageur, nous allons prendre le pouls de la planète alors que les crises humanitaires se succèdent. Tout de suite, notre séquence instantanée. Avec ce document, nous sommes au cœur des Alpes, côté français. Des migrants prennent tous les risques pour franchir un col à près de 1800 mètres d'altitude. Sur leur route, des habitants de la vallée qui tentent de les aider. Regardez, écoutez.
Ces deux accompagnateurs en haute montagne découvrent en quelques minutes des migrants en danger.
Tu viens de quel pays ?
La Guinée. Guinée.
En montant aussi là-bas.
D'abord deux hommes. Deux autres se sont cachés pour échapper aux gendarmes qui les reconduiraient en Italie.
Oh les gars ! Venez, on a à manger, on a du thé là, ça craint rien.
Vous êtes conscient que vous risquez votre vie peut-être en traversant aussi ?
Si.
La on ne peut pas vous aider plus, parce qu'avec la police, si jamais, voilà, on n'a pas le droit de vous faire passer, on n'a pas le droit de vous prendre dans nos voitures.
Il les regarde donc repartir seuls. Encore 20 km pour rejoindre la vallée.
Bonjour Éric Chaisson.
Bonjour.
Depuis ce reportage, il a beaucoup neigé dans cette vallée de Névache, 1,50 m de neige. Cette année, 1 600 migrants ont franchi ce col, 900 étaient des mineurs. Vous êtes parti il y a près de 40 ans en mer de Chine pour sauver les boat people, les réfugiés vietnamiens. Quelle est votre réaction à ce document ?
Ma réaction, c'est une colère, un dégoût. Un profond dégoût, je ne comprends pas. Alors, en 79, bien sûr, c'était loin de chez nous. Mais souvenez-vous, mobilisation de l'ensemble des intellectuels, Raymond Aron, Sartre, Montand, derrière Bernard Kouchner.
Glucksmann.
Glucksmann, bien entendu. Et il y avait une solidarité transcourant, transpolitique.
Mais pourquoi ce silence aujourd'hui ?
Parce que je pense que D'abord, nos intellectuels devraient s'occuper des vrais problèmes. Excusez-moi, c'est le chirurgien qui parle. Quand ça saigne, il faut arrêter l'hémorragie. Et là, en l'occurrence, c'est le drame total. Alors bien sûr, dans les Alpes, mais c'est une horreur. On imagine le froid, il doit faire moins 10, moins 15 là-haut. C'est...
Moins 20 parfois. Même.
Mais la Méditerranée, 5000 les deux dernières années, 1700 depuis le début de l'année. Mais que faisons-nous ?
Vous parlez des morts des...
Oui. Bien sûr, des morts, des noyés.
Mais alors où sont les humanitaires ?
Les humanitaires, ils sont là. D'abord, il y a des bateaux de différentes associations. Mais la situation est devenue tellement complexe parce qu'il y a un repli à rejet. Nous avons dit que nous acceptions 15 000 sur 3 ans. Nous ne sommes même pas à 7 000. C'est une honte. Il faut à tout prix ouvrir à ces gens qui se noient ou qui vont mourir de froid. D'abord, réglons le problème urgent, arrêtons la noyade, arrêtons ce qu'il se passe dans nos montagnes, dans les Alpes, et après, voyons les problèmes. Mais je vous assure, il faut qu'on réagisse, les politiques, les médecins, les associations, et bravo à ces sortes de, je dirais, brigade humanitaire qui
les
actuellement...
accompagnateurs de haute montagne. Alors avant de poursuivre cet entretien, Éric Chaisson, je vous propose de revenir sur votre parcours. Regardez ce focus. Écoutez, il a été réalisé par Bastien Bory et Séverine André.
Fini les soins procurés aux Moudjahidines afghans en pleine invasion soviétique. Vous avez besoin, Éric Chaisson, de donner d'autres coups de main. Comme celui qui sème la graine pour récolter le vin dans ce village français de 420 âmes, près de Lyon.
Vous savez, la vie c'est un équilibre et il faut avoir une niche. J'en ai une petite, vous en avez parlé. Elle est dans ce merveilleux Beaujolais.
En faisant bien sûr quelques entorses à la modération, vous qui, encore étudiant en médecine en 1979, embarquez à bord de l'île de Lumière avec un autre French doctor, Bernard Kouchner, cap vers l'Est pour secourir et soigner les boat people. Mais de la mer de Chine à la guerre du Kosovo jusqu'au tsunami de l'océan Indien, c'est l'Afghanistan qui vous a le plus marqué. 37 ans de mission périlleuse et vous voilà à présent bâtisseur d'un hôpital à Kaboul.
Et j'espère que dans 3 mois, on va pouvoir commencer l'aile de la mère. L'aile de la mère, c'est-à-dire l'aile pour la gynécologie et l'obstétrique.
Tout cela grâce à la chaîne de l'espoir, créée avec le professeur Deloche pour ne plus avoir à sacrifier des vies sur place, faute de matériel. Cette ONG, comme tant d'autres, est, dites-vous, le poil à gratter de la démocratie.
Je vous assure qu'on en prend plein la gueule. Et pendant 2002-2003, on nous a dit « c'est beaucoup trop beau pour les Afghans ».
Aujourd'hui, entre deux missions humanitaires, vous continuez à pratiquer la chirurgie vasculaire et thoracique en région parisienne.
Je suis fier que mes enfants m'aient pardonné et sont peut-être fiers de moi.
Personne ne doute de votre engagement, Éric Chaisson, mais dans un environnement plus opaque, plus dangereux, où les ONG sont concurrencées, souvent ciblées, difficile de savoir si la communauté des humanitaires sera capable de s'adapter.
Éric Chaisson, Sophie Malibaud de RFI et Christophe Ayat du Monde nous ont rejoints.
Bonjour.
Alors on va revenir sur les défis posés aujourd'hui à l'humanitaire. J'ai envie de vous poser une question très très simple pour commencer encore cet entretien. D'où vient votre engagement ?
Mon engagement, il vient d'abord d'une rencontre à un certain moment de ma vie. Je n'étais pas programmé pour ça. J'ai rencontré Bernard Kouchner, qui est quelqu'un qui a soulevé des montagnes. Ça a été pour moi un coup de grisou dans la tête. Je suis parti en mer de Chine, je suis parti à l'île Le Poulot Bidon, 40 000 réfugiés sur un petit îlot. Ça a changé ma vie. Oui. Et à ce moment-là, c'était pas possible. Et on a embrayé aussitôt sur l'Afghanistan, le soutien aux Moudjahidines, et puis...
Vous dites, parce que vous êtes chirurgien vasculaire, vous dites aussi souvent, vous avez cette jolie image, que tous les cœurs des hommes et des femmes se ressemblent quand on les opère.
Oui, vous savez, j'opère beaucoup et j'opère en profondeur dans le corps. Et dès que je passe l'épiderme, je vous assure que votre aorte est la même que une femme au Liberia, au Togo ou à Châteauroux. Et donc, si vous voulez, il y a une autre chose, c'est qu'ici, je soigne. Là-bas, je sauve. Si je ne vais pas demain matin à l'hôpital, dans mon bloc, à Pontoise, c'est fâcheux, mais c'est pas grave, il y a beaucoup de monde pour remplacer.
Sophie. Oui, Éric Chaisson, est-ce qu'il n'y a pas un certain paradoxe tout de même à choisir d'aller au bout du monde quand chez nous, là, ici, en ce moment, les migrants affluent, et vous le disiez, on a bien entendu votre cri d'indignation, mais on a l'impression que le monde humanitaire n'a pas encore saisi que c'est ici, là, qu'il faudrait agir en priorité.
Je ne suis pas tout à fait de votre avis. Je trouve que beaucoup d'associations humanitaires font un travail formidable en France auprès des sans-domicile fixe, auprès des migrants, et notamment une grande organisation qui s'appelle Médecins du Monde. Elle fait un travail formidable. On peut faire toujours plus. Mais si vous voulez, je pense que personne en France actuellement peut mourir d'une péritonite. Le SAMU emmènera dans le premier hôpital et que vous ayez les papiers ou pas, vous serez soigné. Après, on verra le problème, mais vous serez soigné. Alors, bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais par rapport aux situations que nous avons évoquées et qu'on évoquera ensuite par la suite, je dirais, le curseur est différent. Je pense qu'il y a en effet beaucoup d'actions sur le social et notamment sur les migrants, mais il y a des associations qui font beaucoup de travail là-dessus.
Éric Chaisson, depuis 1979, donc vous parcourez la planète, vous agissez, vous sauvez, vous soignez. On a l'impression en ce moment que ça n'a jamais été pire, que les menaces deviennent ingérables, les conflits deviennent ingérables, les flux migratoires sont ingérables. Est-ce que c'est une impression ou est-ce que c'est objectif? Vous n'avez jamais vécu une situation comme en ce moment.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, je dois l'en connaître, la situation est de pire en pire. Alors, y a deux solutions. Soit on baisse les bras, soit on y va encore plus. Il y avait, vous vous souvenez très probablement, il y avait un film qui avait été fait de promotion de Médecins du Monde, 1 milliard dans la salle d'attente. C'est plus 1 milliard, c'est 2, 4, 5, 6. Et donc, il y a encore plus besoin que nous nous mobilisions. Je crois profondément que nous, qui avons connu de certaines époques, nous avons un rôle de mobilisation des jeunes, que ça soit dans le domaine de la médecine ou autre. Je crois qu'il y a une relève extrêmement nécessaire parce que l'urgence est absolue.
Mais elle est là, cette relève ?
Elle est. Je pensais qu'elle n'était pas là. Mais depuis un ou deux ans, on sent que les jeunes reviennent à l'humanitaire. Et je ferai une référence à quelque chose que vous connaissez très bien, qui est lemonde.fr. Et je crois qu'il y a deux ou trois jours, vous avez fait, et moi je le constate, puisque j'anime un DU et un master dans l'humanitaire, que les étudiants en médecine, et notamment par exemple Perret Descartes, la moitié partent. Bien sûr aux États-Unis, en Chine et autres, mais beaucoup dans les pays en voie de développement. Et ça, je crois que c'est un petit signe
d'optimisme. Alors, il y a un hôpital construit par la chaîne de l'espoir et pour lequel vous vous êtes beaucoup investi, Éric Chesson, c'est celui de Kaboul, celui de la capitale afghane. Il existe maintenant depuis près de 11 ans. Vous et l'Afghanistan, c'est une histoire qui dure depuis près de 40 ans. Alors, mais aujourd'hui, l'Afghanistan, c'est un pays extrêmement dangereux. La guerre est toujours là, il y a des attentats de plus en plus meurtriers. Il faut désormais compter avec le groupe État islamique de plus en plus présent. Et comment vous gérez cette situation? Est-ce que vous n'allez pas être, à un moment donné, obligé de mettre la clé sous la porte?
Oui, c'est la fameuse ligne rouge. C'est quand est-ce qu'il faut arrêter, car le danger est tel. Mais je pense qu'on abordera peut-être d'autres sujets, mais on l'abordera pour la Syrie, pour le Yémen, en Afghanistan. Plus ça va, plus... Quelque part, on se bunkerise, on continue.
Vous y étiez il y a trois semaines.
J'y étais il y a trois semaines. On continue à opérer. Par exemple, aujourd'hui, dimanche, trois cœurs ouverts sont opérés à Kaboul par des Afghans que nous avons formés. À peu près 40 000 opérations. Nous venons d'ouvrir une maternité. Je vous rappelle la condition...
Oui, mais autour de l'hôpital.
Autour de l'hôpital, c'est la situation devient de plus en plus dangereuse. Pour nous, mais aussi pour les Afghans, pour l'ensemble de la population à Kaboul, c'est extrêmement insécure du fait des attentats, du fait des kidnappings. Je crois à tout prix qu'il faut rester. Il faut rester parce que nous représentons d'abord une possibilité de soins, une possibilité de formation, mais je vous assure que nous sommes une symbolique d'espoir incroyable. Et en permanence, ils nous disent, je vous assure, restez. Et puis une autre chose.
Je voudrais vous demander, est-ce que ce type d'action, vraiment un hôpital avec des équipements de nature très moderne, dans un pays où toutes les provinces sont vraiment absolument en manque d'accès au minimum de soins, est-ce que c'était le bon choix?
C'est non seulement le bon choix, mais alors là, je suis très heureux que vous abordiez ce sujet. Oui. Je ferai simplement référence à l'article du Lancet, qui malheureusement n'a pas été diffusé, mais il le sera. Qu'est-ce qu'il montre?
La revue médicale.
Bien sûr, le Lancet que tout le monde connaît, qui est quand même une référence. 2015, ils l'ont refait en 2016, repris par l'OMS. Qu'est-ce qui tue le plus actuellement? Ce n'est plus le sida, ce n'est plus la tuberculose, ce n'est plus le paludisme. C'est le non-accès à un plateau chirurgical. Il manque actuellement 2 millions de chirurgiens anesthésistes et autres. Qu'est-ce qui tue le plus? La péritonite appendiculaire qui n'est plus opérée. La hernie étranglée, la fracture ouverte. Le basique, c'est-à-dire le Moyen Âge. Il n'y a pas de plateau chirurgicaux accessible pour 5 milliards de gens. Donc ce que nous faisons à Kaboul, je réponds à votre question, non seulement nous traitons les gens de Kaboul, mais nous avons une antenne à Bamiyan, à Faisabad et à Kandahar. Et nous utilisons beaucoup la télémédecine qui rend des services absolument incroyables. Mais on s'adapte aux mesures de sécurité.
Mais comment est-ce que vous expliquez ce gouffre qu'il y a entre la capitale et l'accès aux soins des gens ordinaires dans les provinces?
Mais c'est une évidence. Nous avons une grande difficulté. C'est quasiment le nombre d'ONG qui sont en dehors de Kaboul sont très peu nombreuses. Et d'ailleurs, on a vu ce qui s'est passé à MSF, le bombardement de l'hôpital. C'est extrêmement difficile. Et d'ailleurs, beaucoup d'ONG se retirent déjà de Kaboul.
Et Éric Chesson, justement, l'Afghanistan, c'est pareil, vous y allez depuis longtemps. Vous l'avez vu progresser puis régresser, ou progresser tout court, ou régresser tout court? Ça fait longtemps qu'on y intervient maintenant. Quel bilan on peut tirer de cette intervention? Elle a posé quelle base? Elle a servi à quoi? Il y a eu des milliards dépensés. Qu'est-ce que ça a changé? Parce que
je trouve votre question passionnante et moi j'ai toujours voulu qu'on fasse ce qu'on appelle une RMN. C'est quoi une RMN? Quand en médecine ou en chirurgie il y a un problème, on fait une revue mortalité-morbidité, c'est-à-dire que des gens étudient pourquoi on est arrivé à ça. Et faisons la RMN de l'Afghanistan. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2002-2003, je vous assure, on pensait que c'était gagné. C'était gagné. Et probablement, alors je ne vais pas vous donner tous les exemples, je ne suis que chirurgien, mais on voyait bien ce qui se passait, les femmes, les radios, les ainsi de suite, c'était incroyable. Je vous assure, on s'est dit, c'est là. On a ouvert un autre dossier, l'Irak, on a abandonné l'Afghanistan, et ensuite tout s'est déroulé. Donc, je dis simplement, si nous avions continué ce que nous avons fait, c'est-à-dire de traiter le militaire, qui est une évidence, mais de traiter le social, l'éducation et la santé comme ça avait été très bien fait au départ.
C'est-à-dire massivement.
Massivement. Et simplement, vous savez, on avait parlé de la taxe Tobin, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais il ne pourrait pas y avoir une petite taxe simplement pour traiter l'éducation et la santé. Et je vous assure, ça changerait la donne. Alors on va vous dire que c'est bisounours. Je ne crois absolument pas. Je vais vous dire simplement une chose. Lorsque un Afghan, par exemple, venu de zones talibanes, comme les zones de Zaboul et autres, vient à l'hôpital de Kaboul et qui voit qu'une infirmière de Toulouse passe une nuit en réanimation à surveiller son enfant, je vous assure qu'il n'est absolument plus sensible au discours des fous furieux qui nous présentent comme le diable.
Et alors pourquoi c'est pas une infirmière afghane?
Et justement, actuellement à Kaboul, sur 950 salariés, il reste à peu près 7 à 8 expats. Nous venons simplement sur des missions d'appui. Et donc, ce sont les Afghans. Et le plus grand succès, c'est quand c'est un Afghan qui opère, un Afghan qui endort.
Ça arrive souvent?
Eh bien, je veux dire, c'est à peu près 80% de ce que nous faisons à la chaîne de l'espoir. Parce que soigner, c'est une chose, mais à mon avis, le plus important, c'est former et leur redonner les clés.
Éric Chesson, revenons un peu sur ces questions de sécurité. L'an dernier, il y a eu, selon les Nations Unies, 158 attaques contre les opérations d'aide humanitaire. La liste des pays est longue, hein, en Syrie, bien sûr, mais aussi l'Afghanistan, on vient d'en parler, au Yémen, en Somalie. Il y a eu plus de 100 morts parmi les personnels humanitaires, presque autant de kidnappés. Pourquoi? Est-ce que le droit humanitaire n'est plus respecté ou est-ce que c'est parce que les humanitaires sont parfois assimilés à l'une des parties du conflit?
Je voudrais d'abord vous dire que je pense que vos statistiques sont un tout petit peu sous-évaluées.
Ce sont celles des Nations Unies.
Je vous assure qu'ils ne sont pas du tout au courant. Je vais d'abord vous donner, moi, un chiffre personnel. Je l'ai vécu le 8 mars 2017 à Kaboul. Attaque de l'hôpital militaire. On a dit 47 morts. Moi, j'y étais. Je vous assure simplement de vous en parler, j'en ai la chair de poule. Ils ont massacré pendant 6 heures à la Kalachnikov, à la baïonnette. Ils ont coupé les têtes des médecins. Ils ont coupé les mains des infirmières. C'est une horreur absolue. On parlait tout à l'heure au Yémen, les hôpitaux de Médecins Sans Frontières. Je crois qu'il y a eu 27 ou 29 morts simplement dans les équipes de. Donc c'est actuellement, et bien sûr la Syrie, c'est volontaire. Je crois que le non-accès à un hôpital est, je dirais, la cerise sur le gâteau de l'horreur. Et c'est instrumentalisé remarquablement. En Syrie, je pense que les médecins sont des cibles, kidnapping, torture et hôpitaux bombardés. Et c'est une certitude et on peut se demander si ça ne devient pas, comme le viol,
une arme. Une arme de guerre. Mais alors la question se pose aussi de savoir pourquoi on en est arrivé là. Est-ce qu'il n'y a pas eu des erreurs de commise à un moment donné dans la gestion des grandes crises, que ce soit en Afghanistan, en Somalie, etc., quand les militaires se sont mis à faire de l'humanitaire? Est-ce que ce n'est pas là aussi où on a semé un peu une certaine confusion dans les esprits?
Très, très rapidement, Éric Chesson, parce que nous arrivons à la fin de cette première partie de cet entretien.
Très probablement, je ne suis que chirurgien. Je pense que plus nombreux nous sommes à aider, c'est une chose, mais je pense qu'il y a eu probablement une ambiguïté. que les ONG, elles sont non gouvernementales, parfois non gouvernables, et c'est ce qui les rend absolument nécessaires. Je pense qu'il y a eu parfois une ambiguïté.
On va se retrouver pour continuer cet entretien dans quelques minutes. Nous allons... Éric Chesson, merci d'être l'invité d'International sur TV5 Monde et RFI en partenariat avec le journal Le Monde. Il y a un pays où 8 millions de personnes sont au bord de la famine, c'est le Yémen, suite au blocus imposé par les Saoudiens. Alors, une catastrophe humanitaire menace, c'est la famine. Elle est aujourd'hui presque devenue une arme de guerre. On parlait du viol tout à l'heure. Pourquoi, en ce qui se concerne le Yémen, les opinions la presse ne se mobilise pas, sont aussi silencieuses, et les humanitaires, que font-ils? Est-ce qu'ils sont eux aussi condamnés à l'impuissance?
Je pense que le Yémen est presque la cerise sur le gâteau de l'horreur. On est en fin d'année, Alors d'abord, saluons le travail extraordinaire de Médecins Sans Frontières, qui a été en plus touché, je dirais, au plus profond. Vous savez qu'il y a eu plus de 29 personnes qui ont été touchées. En plus, il faut peut-être voir l'appel qu'a fait MSF pour montrer la nécessité absolue d'avoir de nouveau accès à leurs hôpitaux face à ce blocus. C'est l'horreur intégrale, la guerre, le choléra,
la famine.
La famine, c'est une horreur absolue.
Éric Chesson, tout à l'heure, on parlait de la Syrie, là, on parle du Yémen. À chaque fois, il y a le même problème, c'est un problème d'accès, d'accès des humanitaires, des soignants, de l'aide humanitaire. Il y a un blocus, ou même des journalistes et de la presse. Est-ce que un nouvel ordre mondial s'est imposé, qui serait un ordre un peu poutinien, on va dire, mais qui est endossé aussi par des gens comme, des pays comme la Chine, l'Arabie Saoudite, etc. C'est-à-dire, est-ce que finalement, par rapport à une époque où c'était des démocraties occidentales qui dictaient un peu les règles, en fait, aujourd'hui, les règles sont dictées par des régimes autoritaires, voire dictatoriaux. Je pense que l'ordre du monde s'est inversé, quoi.
Je pense que vous avez complètement raison. On assiste à, je dirais, à un massacre qui est sous le silence, parce que il y avait eu, reprenons quand même ce que disait Bernard Kouchner à cette époque, l'association médecin-journaliste permettait d'accéder au lieu de combat. Actuellement, il est terriblement difficile d'accéder, et le blocus qui a été fait par l'Arabie Saoudite et l'appel de Médecins Sans Frontières pour de nouveau pouvoir accéder aux hôpitaux. Je vous rappelle que MSF a plus de, je crois, 16 hôpitaux dans lesquels ils font un travail absolument incroyable, dans des conditions abominables, et c'est un massacre qui se fait dans un silence total. Et il y a eu toujours cette association journaliste-médecin qui a permis parfois de dénoncer. Actuellement,
Maintenant que c'est devenu plus difficile, est-ce que le rôle des grandes ONG comme MSF et autres ne serait pas de renforcer les ONG du Sud qui ont un accès plus facile, puisque c'est leur pays qui est concerné?
Mais
alors, je sais qu'MSF travaille avec des locaux.
Mais bien sûr, nous-mêmes, par exemple, sur la Syrie, il y a beaucoup de pays dans lesquels nous ne pouvons pas aller, car la dangerosité est telle, et nous agissons avec, et notamment en Syrie, c'est le cas également au Yémen. Je pense que, si on reprenait la grande idée qui avait été les corridors humanitaires, qui avait été quand même une idée qui était absolument fantastique, elle est actuellement foulée aux pieds.
Plus personne n'en parle, d'ailleurs.
Très concrètement, quand les populations sont prises en otage, quelle est la solution qui s'offre aux humanitaires? Ils doivent discuter avec le diable, en fait?
Ils doivent discuter avec le diable si ça permet de sauver, oui, mais vous savez parfaitement que actuellement les moyens sont tels. Alors il y a les moyens de pression, mais moi j'ai toujours pensé que le couple médecin-journaliste permettait de briser cette omerta et ce silence, ce massacre en silence. Ça a marché dans beaucoup d'endroits. On parlait des boat people, on parlait de l'Afghanistan et bien d'autres. Actuellement, ce qui se passe au Yémen est probablement un des plus grands massacres sous une chape de plomb considérable pour les journalistes et pour les humanitaires. Et vous voyez, sur l'ensemble des hôpitaux qui sont tenus par les assurés humanitaires, il y a très peu d'expatriés.
Si vous voulez bien, Éric Chesson, revenons à la chaîne de l'espoir que vous avez cofondée avec le professeur Alain Deloche, dont vous êtes aujourd'hui le président. Vous aviez jusqu'à peu une marraine de renom qui se mobilisait sans compter pour les enfants à secourir. On l'écoute.
Je suis toujours bouleversée quand je vois un enfant malade, gravement menacé. J'ai été cet enfant. Médecins et chirurgiens m'ont sauvée. J'ai une dette envers la vie. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à aider cet enfant. Aujourd'hui, sauvons cet enfant.
Éric Chesson, Mireille Darc nous a quittés en août dernier. Elle a été auprès de vous, de la chaîne de l'espoir, pendant près de 15 ans. Que vous a apporté son engagement? Est-ce qu'elle vous rendait plus visible? Elle vous permettait de lever plus de fonds?
Oui, d'abord ça, mais Mireille, c'était un engagement total. C'est pas une marraine, c'était plus qu'une marraine. Elle participe aux discussions. Elle était, je dirais, l'aiguillon. Il fallait faire, fallait toujours faire plus. Et elle avait vis-à-vis de l'enfant cardiaque, elle ne supportait pas cet enfant qui en bout de pathologie manque d'air. Elle savait ce que c'était, elle l'avait vécu, et c'était un des combats de sa vie. Et elle nous a aidés, et elle nous a en permanence stimulés en disant il faut le faire, on doit aller plus loin. Et elle savait parfaitement le coût d'une intervention cardiaque, 2 500 €. Avec 2 500 €, on pouvait sauver un enfant cardiaque. Et elle avait cette volonté, c'était un combat de sa vie.
Alors je voudrais maintenant que l'on écoute une autre célébrité. C'est le message d'un acteur français extrêmement populaire, notamment grâce à son rôle dans le film Intouchable. Il s'appelle Omar Sy. Le 27 novembre dernier, sur Twitter, il enregistrait ce message.
Bonjour à tous. Je suis au Bangladesh, dans le plus grand camp de réfugiés au monde où vivent les Rohingyas. Ils sont près d'un million. Ça fait 3 mois qu'ils arrivent en masse dans ce pays, chassés de la Birmanie. La chose la plus importante pour aujourd'hui, c'est de retrouver de la dignité, la liberté et un pays, la sécurité. Ça, on ne peut pas leur apporter. Mais je suis venu avec la Love Army, on a discuté avec les familles. Ils ont besoin de première nécessité. Il y a certains qui ont besoin de lumière, certains qui ont besoin de chaussures, de médicaments, un tas de petites choses comme ça. Et ça, on peut le faire.
Alors à la suite de ce message, la notoriété numérique, notamment celle d'Omar Sy, et la viralité de ce poste sur les réseaux sociaux, eh bien 2 millions d'euros ont été levés. Alors il parle, Omar Sy, de la Love Army, ça a été un mouvement qui a été lancé par un jeune français de 27 ans, Jérôme Jarre. Voilà comment les youtubeurs parlaient de lui quand il a lancé en mars dernier une récolte de fonds pour la Somalie.
Jérôme s'est fait connaître sur Internet par des vines et des snaps remplis d'humour et d'extrême bonne humeur. Depuis 2 ans, il organise des missions humanitaires grâce à son audience. Il a notamment soutenu des projets aux Philippines, au Sénégal ou encore en Colombie. En ce moment, plusieurs pays d'Afrique de l'Est sont touchés par une violente famine, ce qui met en danger de mort la population. Jérôme décide de lancer une récolte de fonds, les réseaux sociaux se mobilisent très vite et d'autres influenceurs rejoignent le mouvement, appelé Love Army for Somalia. En moins d'une semaine, il récolte plus de 2 millions de dollars. Grâce à cet argent, ils ont déjà commencé à distribuer de la nourriture et de l'eau à Mogadiscio, dans la capitale de la Somalie. La Love Army travaille sur place avec l'organisation humanitaire ARC, qui est gérée à 100% par des Somaliens.
Alors, ce succès, Éric Chesson, de la Love Army, est-ce que ça veut dire que les jeunes se détournent de l'aide humanitaire classique, des grandes ONG classiques, ou est-ce que c'est parce qu'ils veulent aller vers des actions plus efficaces, plus concrètes? Quel regard vous portez-vous sur cette action?
Je trouve ça formidable, mais excusez-moi, il n'y a rien de nouveau. On l'a fait de toute époque, et à la limite, trouvons 2-3 personnes très emblématiques dans le monde de la chanson, dans le monde du cinéma et autres, et allons dénoncer ce qui se passe en Méditerranée. Allons-y. Et derrière, mais je veux dire, quand on a fait les Beaux People.
Ce qu'ils mettent en avant, c'est.
Excusez-moi, quand on a fait les Beaux People, qui y avait? Raymond Aron, Sartre, Montand, Signoret. Et
oui, mais là, ce qu'ils mettent en avant, c'est que l'argent va directement. Il n'y a pas d'intermédiaire. Directement, il passe par des ONG locales.
Mais que ce soit par des ONG locales, que ce soit par des ONG nationales, internationales et autres, de toute façon, le but, c'est de soigner, de sauver, de nourrir. À un moment, et c'est peut-être là où les French Doctors existent toujours, mais ils ne sont plus, ce n'est plus un combat individuel, c'est un combat collectif qui demande professionnalisme. Professionnalisme, d'abord transparence vis-à-vis du donateur. Mais quand...
Éric Chesson, moi j'ai une question. Est-ce que, justement, sur le regard que vous portez sur les humanitaires en général, est-ce que y a des bons humanitaires et des moins bons? Parce qu'on le voit, les French Doctors ne sont pas seuls. Il y a aussi des organisations prosélytes. On a des évangélistes, on a des islamistes qui font de l'humanitaire, entre guillemets. Quel regard vous portez là-dessus? Tout est bon?
Absolument pas. Je dirais, dans votre milieu journalistique, vous avez probablement exactement les mêmes dérives, les mêmes... mais je crois que pour ce qui est de la France, il y a des organismes de contrôle. Ça s'appelle la RUP, la reconnaissance d'utilité publique, ça s'appelle le comité de la charte, qui, je vous assure, quand vous êtes au comité de la charte, et je dis à ceux qui nous écoutent, regardez, quand vous donnez pour quelqu'un, si vous avez en bas comité de la charte, je vous assure que vous passez un examen où vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Je pense que ces mouvements sont absolument indispensables. Ils sont le poil à gratter de notre confort intellectuel et de notre repli sur soi. Nous sommes à un moment de repli sur soi qui est absolument effrayant. Et donc, je pense qu'il faut continuer. C'est formidable que ces jeunes se mobilisent.
Et Éric Chesson, justement... vous parliez de repli sur soi. Est-ce qu'on observe une diminution de la générosité, des dons, ou est-ce que c'est pas le cas?
On observe une diminution des dons, et je crois qu'il y a une étude dont je n'ai pas il y a quelques semaines, je crois qu'on c'est un repli de 4 à 6% des dons, des dons 4 à 6%, c'est considérable. Je pense que l'époque est frileuse, ayons l'honnêteté de le dire, elle est frileuse, c'est le repli sur soi, la peur de l'autre. Moi, je dis au contraire qu'il faut ouvrir. Il faut d'abord sauver. Je suis chirurgien, sauvons d'abord les gens qui se noient, sauvons les gens qui sont dans la montagne, et après on discute. Mais je pense qu'il faut à tout prix qu'on ouvre le jeu et qu'on ouvre la porte à l'autre.
Mais on entend bien votre indignation, Éric Chesson, mais il y a aujourd'hui des dizaines de milliers d'ONG. En 1980, il y en avait 4000. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'ONG qui souffrent d'une image de charité business. Alors, j'ai envie de vous demander, on a l'impression que certains mobilisent beaucoup d'argent, et puis il n'y a pas beaucoup de résultats à la clé.
C'est probablement vrai, mais je pense que ce monde...
Mais il y a trop d'ONG, par exemple? Vous pensez que...
Je ne pense pas.
Mais c'est devenu un business comme un autre?
Si vous voulez, une ONG qui a un plan et elle va pas aller très loin. À partir du moment où vous arrivez, excusez-moi, dans le dur, c'est-à-dire la médecine, sauver des gens en mer Méditerranée, ou donner des logements à des gens, il y a des lois, il y a des règles, et c'est extrêmement difficile. Il faut être structuré, il faut être sérieux, il faut être professionnalisé. Et d'ailleurs, vous avez de plus en plus de gens qui vont faire leur métier de ça, que ce soit en médecine, que ce soit des logisticiens, des contrôleurs de gestion, il y a maintenant toute une filière qui s'occupe de ça, qui se professionnalise.
Oui, mais alors justement, au Royaume-Uni, on voit maintenant des ONG qui sont quasiment des entreprises, ou qui sont des entreprises, à qui la question du profit ne pose pas de problème, mais elles disent en contrepartie, on est efficace, c'est-à-dire qu'on est capable de montrer ce qu'on a fabriqué, etc. Est-ce que que vous inspire cette évolution? Je pense à des Integrity, par exemple,
oui.
qui est un peu entre l'ONG et l'entreprise, quoi.
Mais ils correspondent à un mouvement de va-et-vient. Vous aviez, excusez-moi, je ne vais pas être passéiste, mais il y avait ce qu'on appelle le ministère de la coopération.
Okay. Mais il y a l'AFD aujourd'hui, l'Agence française
pour le développement. Exactement. Elle a été, elle a disparu en vol. Ce ministère de la coopération envoyait des milliers d'instituteurs, d'agriculteurs, de médecins, d'infirmières, et j'en passe, dans tous les pays, notamment d'Afrique ou les pays en développement. C'était de la transmission de savoir, c'était du dialogue, c'était du lien, c'était du liant. C'était un bras armé de dialogue. Il a disparu, dissous.
Pour quelles raisons, selon vous ?
Des raisons budgétaires et des raisons de mots magiques. Je crois que dans l'audiovisuel, vous le connaissez bien, mutualisation. Alors là, on a ouvert donc toutes les portes.
Mais c'est Il a disparu. De l'autre côté,
je pense que c'était
qu'on nous dit, c'est pas de la coopération qu'on veut, c'est du partenariat. C'est ça aussi le discours de l'autre côté.
Oui, mais enfin, si vous voulez du partenariat, vous ne demandez pas du partenariat, je trouve que c'est indigne. Vous ne demandez pas du partenariat à quelqu'un qui n'a rien. Vous lui tendez la main, vous le sauvez, et après, on réfléchit. Je pense que la disparition de ces mouvements gouvernementaux a fait la place à d'énormes ONG. Quand vous avez les budgets de Médecins Sans Frontières, internationales, de ce que vous citez, et autres, remplissent un vide. Alors, bien sûr, il faut que ça soit fait avec contrôle, avec professionnalisme. Mais je pense que c'est une nécessité absolue parce que les besoins sont de plus importants. Et les différents sujets que nous avons abordés montrent que nous devons être présents.
Si vous voulez bien, continuons sur ces... Il y a ces grandes fondations aujourd'hui, hein, on voit Bill Gates qui lutte contre la pauvreté, pour la santé, etc. Là, vous venez de dénoncer en quelque sorte un désengagement de l'État, mais alors est-ce que ces grandes entreprises philanthropiques, est-ce qu'elles, là, elles aussi, elles contribuent au désengagement de l'État, ou est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde ?
Je ne me permettrai pas de dénoncer le dégagement de l'État parce que je suis pas... Je me n'en donne même pas le droit. Je vois ce qui se passe sur le terrain. Quand vous avez des fondations comme Bill Gates, la fondation Clinton, la fondation de la CAQ, qu'on ne connaît pas, qui est une puissance hallucinante, qui fait un travail extraordinaire, et je le sais bien à Kaboul.
Oui.
Je pense que ces organisations font un travail tel, nous l'avons dit tout à l'heure, souvenez-vous, je vous ai dit, le sida, la tuberculose, le paludisme, ils sont bien entendu toujours nécessaires, mais ils ne sont plus en tête de... Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait un travail incroyable, avec un professionnalisme, et en plus sans éthique, enfin, je l'espère, sans étiquette politique, mais il faut quand même faire du contrôle.
Et du coup, ils ne se sont pas substitués aux États ?
Mais bien sûr qu'ils sont substitués à l'État. L'État n'a plus les moyens. Enfin, je me plaindrais pas de dire, parce que alors là, je ne dirais pas que c'est une banqueroute sur ces domaines de coopération.
Donc mais, désormais, on est dans les mains des philanthropes.
Mais moi, ça ne me choque pas. Et je vous assure, moi, je serais prêt à prendre l'argent d'où il vient, parce que je sais, quand je fais un bloc opératoire, je sais que je sauve. Et j'ai une certaine pudeur. Mais sur l'argent, je serais prêt à accepter beaucoup de choses quand je vois le drame total que vivent certains, je dirais, patients.
Éric Chesson, parlons maintenant d'un continent qu'on a peu évoqué jusqu'à présent, c'est l'Afrique. Hein. Je sais que la chaîne de l'Espoir va bientôt ouvrir un hôpital à Bamako. Alors, dans un tout autre registre, il y a une ONG norvégienne, SAIH, qui a publié récemment un guide sur Internet, qui est réalisé avec humour, hein, pour mettre en garde contre les clichés du sauveur blanc. Et il y a un peu plus de deux ans, cette même ONG réalisait une vidéo satirique pour dénoncer certains stéréotypes liés à l'engagement humanitaire en Afrique. Un petit film qui s'inspirait d'une émission de télé-réalité pour sélectionner le candidat idéal pour sauver l'Afrique. On écoute, on regarde.
Et nous voilà de retour sur le plateau de Qui veut être bénévole, l'émission qui vous propulse en première ligne. Alors je suis ici avec Lily qui nous vient tout droit d'Europe et elle est à une question du Grand Prix, une opportunité de sauver l'Afrique. Jouons donc à Qui veut être bénévole. Lily, vous avez l'opportunité de sauver l'Afrique si vous répondez à cette question. Combien y a-t-il de pays en Afrique ? Réponse A, 1. Réponse B, 2. Réponse C, 5. Réponse D, 54.
Je l'ai sur le bout de la langue, mais ça ne me revient pas.
C'est l'ultime question. Vous ne pouvez pas faire d'erreur maintenant. Si vous n'avez pas la réponse, tentez au moins de deviner.
D'accord. Hey. Réponse A, 1.
C'est votre dernier mot ?
Oui.
Eh bien, Lily, il va falloir faire vos valises. Mais vous ne rentrez pas chez vous. Vous allez sauver l'Afrique. C'était la bonne réponse. Félicitations.
Oh mon Dieu, j'y crois pas.
Bravo, Lily, bravo.
Je vais être bénévole.
Allez, en route, dépêchez-vous, Lily. L'Afrique ne va pas se sauver toute seule.
Votre réaction, Éric Chesson, à ce petit document, je vous ai vu sourire.
Je trouve ça très drôle, je verrais bien ça en salle de garde, on en a fait d'autres. C'est drôle, et puis après, on a envie de dire, bon, s'il vous plaît, revenons à la réalité. La situation était extrêmement difficile, trouver des fonds est abominablement difficile, trouver des gens qui partent est de plus en plus difficile.
Mais ça dénonce quand même le comportement.
Et puis ça existe, le tourisme humanitaire, ça existe.
Oui, mais enfin, si vous voulez, prenons les bonnes nouvelles là où ça. Le tourisme humanitaire, il est en train de se réduire parce que, voyez la carte du Quai d'Orsay, c'est de plus en plus difficile et de plus en plus dangereux d'aller dans beaucoup de pays. Donc de ce côté-là, ça va se réduire.
Justement, Éric Chesson, vous ouvrez à Bamako, sur l'Afrique. Il y a vraiment deux théories qui s'affrontent. Ceux qui disent l'Afrique va de plus en plus mal. Elle était déjà mal partie sous René Dumont. Puis alors aujourd'hui, tout s'accumule, la démographie, etc., la sécheresse, le réchauffement. Et puis, il y a ceux qui disent l'Afrique va sauver le monde. C'est le continent de l'avenir. C'est la dernière réserve de terre, etc., etc. Vous penchez plutôt de quel côté ? Vous êtes un afro-optimiste ou afro-pessimiste ?
Je serais plutôt dans les optimistes. Je serais plutôt dans les optimistes parce que je pense que il y a quelque chose quand on va en Afrique, il y a une poussée, de la jeunesse, ces moyens numériques permettent de gommer ce gap culturel parce qu'ils ont accès à ça. Et je trouve que dans notre domaine, ils sont extrêmement exigeants, extrêmement volontaristes, et je pense qu'il y a une lueur d'espoir.
Et quel regard est-ce que vous portez sur le rapport de notre pays avec le continent africain ? Est-ce que vous trouvez qu'il évolue, ce rapport ?
Il évolue. Alors, peut-être que le dernier voyage de M. Macron nous permet de voir qu'il évolue. Des jeunes, entre guillemets, pardonnez-moi de le dire, un jeune parle aux jeunes. Et à partir du moment où on n'est pas plombé par un passé qui est peut-être que, en se portant vers l'avenir, il y a une possibilité de...
Mais alors, donc vous êtes afro-optimiste, ce qui est bien. Et en même temps, tout à l'heure, vous parliez des morts en Méditerranée, du drame, et avant la Méditerranée, il y a le drame libyen, où des dizaines de milliers de personnes arrivent chaque mois pour, dans l'espoir éventuel de passer la Méditerranée, ce qui fuit un continent qui va pas très bien et qui exploite sa propre misère.
Il y a eu ces images terribles.
Si vous laissez, je ne cherche pas à faire une analyse géopolitique très profonde. C'est simplement un chirurgien qui vous parle. Je pense qu'il y aurait une marche de plus à franchir pour l'Afrique avec « donnons-lui le minimum de l'éducation et le minimum de la santé ». Il n'y a pas une famille au monde. Quand quelqu'un est malade, et je vous assure, on le voit bien en Afghanistan, même les familles de talibans ou de fous furieux, quand un gamin, une péritonite appendiculaire ou que la grand-mère a ceci, le soin. Donc, donnons-leur le coup de pouce et ensuite allons les former sur place. Arrêtons de les faire venir chez nous. Les pathologies ne sont plus les mêmes. Et je pense qu'on peut parfaitement les aider sur place avec respect, dignité, mais avec le savoir d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, nous avons ouvert un hôpital de chirurgie cardiaque dans l'hôpital FAN à Dakar. Ils opèrent eux-mêmes. Je peux vous dire d'ailleurs qu'ils opèrent très bien et les choses se passent bien. Donnons-leur le savoir les moyens et ensuite ils ont le...
Éric Chesson, nous arrivons au terme de cet entretien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Sophie, merci Christophe, merci à vous tous pour votre fidélité. C'est le dernier numéro d'International cette année. Nous vous souhaitons à vous tous, où que vous soyez, auditeurs, lecteurs, téléspectateurs, de très joyeuses fêtes. On se retrouve en 2018. On compte sur vous. À très bientôt.
South of the river, with the chains and the gold, we could be out here together, but you have places to go. Watching the sunshine lace the gray, I don't know why you wouldn't stay. You should come south of the river, where the loving is gold. River, this is where it all starts. I think that we could stay here forever, lie on the roof till it's dark. And when the last bus pulls away, I swear that I almost heard you say I should move south of the river. I want to get to know. I want to get to know. The river.